Radio Foot International, Annie Gasnier.
Bonjour à tous, merci d'être au rendez-vous de Radio Foot International sur la radio mondiale, bien sûr. Et en cette fin d'après-midi, nous évoquerons cette dernière soirée des quarts de finale de Ligue des Champions avec beaucoup d'incertitudes autour de ces prochains derniers qualifiés. L'Atlético, actuellement maître en son stade de Madrid, doit s'imposer pour continuer dans la compétition, mais l'Inter Milan arrive sur une dynamique de victoire impressionnante. Alors qu'à Dortmund, le BVB tentera de se qualifier aux dépens du PSV Eindhoven, invaincu cette saison. À ceux qui suivront la rediffusion de 22h10, nous ne pourrons tenir compte des matchs alors en cours en Espagne et en Allemagne. Vous en avez l'habitude, mais ce sera la dernière fois avant la reprise de notre deuxième édition, celle d'après-match. Les Gunners et les Blaugrana de retour au sommet européen. Arsenal qualifié 14 ans après sa dernière apparition dans le top 8 européen. Mais les hommes d'Arteta ont tremblé face au modeste FC Porto à Barcelone. La force jeune de la Masia a aidé les hommes de Xavi à retrouver l'écart. Mais cette équipe est-elle vraiment solide? Toutes ces questions avec un petit éclairage allemand sur tout cela, nous l'aurons grâce à David Lortolari. Bonjour David.
Bonjour, bonsoir Annie, bonsoir à tous.
Merci d'être là avec nous, à vos côtés Patrick Juillard. Bonjour Patrick.
Bonjour Annie, bonjour à toutes et à tous.
Merci de venir ici avec aussi Ludovic Duchesne. Bonjour Ludovic.
Salut Annie, toujours un plaisir de vous retrouver avec toute votre équipe. Bonjour à tous.
Eh bien, c'est un plaisir pour nous tous d'être ici, ainsi que David Finzel et Pierre Guérin. Mathieu De Gueldre est à la réalisation. Radio Foot, c'est parti.
È finita! Ha vinto l'Inter! Si è aggiudicata il primo round di questo emozionante.
Bueno, mañana tendremos un partido importante con un rival posiblemente de los mejores de Europa.
Un public fidèle et sans doute fébrile au coup d'envoi ce soir dans le stade Metropolitano de Madrid. L'Atlético de Diego Simeone jouera sa qualification en quart de finale face à l'Inter Milan, qui avait gagné à l'aller 1-0, vous l'avez entendu. L'an dernier, sorti en phase de groupe, cette équipe des Colchoneros qui mise beaucoup ce soir sur le retour de son Principito, le retour d'Antoine Griezmann, blessé à la cheville depuis le match aller en Italie, le champion du monde, qui a inscrit 5 buts en 6 matchs en phase de groupe, a manqué à son équipe puisqu'ils ont réalisé, les Colchoneros, 4 matchs pour une seule victoire et une défaite à Cadiz au cours du week-end. Mais Axel Witsel guette son retour.
Griezy nous donne beaucoup de force quand il est là, quand il peut jouer. Le visage de l'équipe est différent. C'est un joueur essentiel dans le groupe, donc on est bien sûr très très content de pouvoir compter à nouveau sur lui.
Griezou change tout lorsqu'il est dans l'équipe, mais ce soir, Ludovic Duchesne, est-ce qu'on ne peut pas craindre qu'il soit un peu diminué? Il n'a fait que 2 séances d'entraînement.
Ouais, je crois qu'il est revenu vendredi dernier. Il a manqué 4 matchs. Et j'ai envie de dire.
Mais il n'est pas revenu dans les rangs,
non,
en tout cas.
Hein. Non, il n'était pas lors du dernier déplacement. Malheureusement pour l'Atlético qui a perdu 2-0 à Cadix, ça a été, selon les mots de l'entraîneur, un naufrage.
Et il n'a fait que 2 entraînements normaux, je dirais.
Ce que je voulais dire, Annie, c'est que le concernant, ça peut même peut-être lui faire du bien parce qu'il joue tellement tout le temps, tous les matchs, chaque minute, que voilà, ça lui a fait une petite pause forcée. Et je pense que c'est l'espoir numéro 1 de cette équipe de l'Atlético, qui est en face d'elle une équipe qui arrive à maturité, qui est sans doute en ce moment l'une des plus impressionnantes d'Europe. Et c'est pas du tout ce qui ressort de cette équipe de l'Atlético qui est en danger même pour la Ligue des Champions dans le championnat espagnol. Donc oui, Griezmann qui est l'homme à tout faire de cette équipe. Le jeu de cette équipe a beaucoup évolué, on va sans doute en reparler. Mm-hmm. Mais on sait que c'est un joueur décisif et il porte vraiment cette équipe sur ses épaules, peut-être même plus que les autres années.
Alors, effectivement, il a eu du mal à revenir de Barcelone et on se souvient de cet épisode. Mais David Ortolari, on suppose aussi ou on imagine peut-être qu'il a perdu de l'énergie lorsqu'il a essayé de battre ce fameux record historique du club qui était celui du nombre de buts inscrits par Luis Aragonés. Il y est arrivé, il l'a même dépassé. Mais il y aurait perdu de l'énergie, de la concentration qui aurait finalement amené peut-être une blessure et donc une pause.
Ça me parle vis-à-vis de ce qu'on avait vécu. C'était de l'influx mental que Franck Ribéry avait beaucoup perdu lorsqu'il était à égalité de valeur à ce moment-là avec les deux qui l'avaient précédé pour le Ballon d'Or. Et derrière, il y avait eu nécessairement humainement, psychologiquement et donc physiquement derrière aussi une espèce de quelque chose dont on a du mal à sortir. Ça se compte en mois derrière, donc ça me parle, et effectivement ça peut être un risque en tout cas par rapport à la valeur d'un Griezmann, la valeur absolue, par rapport à ce qu'on a vu au match aller, par rapport à l'adversité dont on va parler aussi milanaise, s'il n'y a pas Griezmann, il y a quand même beaucoup moins d'espoir, je pense, pour l'Atlético d'arriver à faire quelque chose, à réussir 2-3 actions de classe qui peuvent faire basculer le match. Il va être important dans la tête de ses coéquipiers, il peut être important aussi malgré tout sur quelques actions.
Patrick, en plus, Diego Simeone dit son report nous apporte plus de solutions sur le plan tactique. C'est vrai que depuis qu'il est revenu de Barcelone et qu'il a retrouvé finalement ce rôle qu'il avait, c'est l'homme lige de Simeone dans cette équipe.
Ouais, c'est l'électron libre et en même temps le dépositaire du jeu. Parce que quand on dit électron libre dans une équipe de ce niveau-là, c'est souvent des joueurs un peu fantasques,
qui sont
sur courant alternatif et qui parfois sont absents. Lui, au contraire, c'est l'élément le plus régulier. C'est, comme vous dites, l'homme lige, le relais du coach également. Un des joueurs les plus anciens de l'effectif. Bon, si on enlève cet intermède, disons, barcelonais plutôt raté. Mais oui, c'est évident. Ensuite, je pense que Griezmann, il peut s'adapter à toutes les configurations. C'est un joueur très intelligent tactiquement.
Les configurations de Simeone.
Oui, même en général, même de celle de Deschamps, il s'adapte bien.
Au Barça.
Ouais, mais ça, c'est
parce
que...
On ne l'avait pas aidé non plus, je sais.
Oui, voilà. Et puis, il n'est pas arrivé dans la meilleure période. Mais moi, je pense qu'il est tributaire aussi du manque d'équilibre de cette équipe qui encaisse beaucoup trop de buts. Qui enquête plus d'un but par match en Liga, dans une Liga qui n'est plus la Liga de l'époque Messi-Ronaldo, qui est une Liga plus faible. Donc ça, c'est inquiétant. La preuve, à Cadix, il y a beaucoup de joueurs qui sont un peu en fin de cycle. Et là, le premier d'entre eux, c'est Witzel, derrière, qui va partir, donc qui est encore là, tout en sachant qu'il sera bientôt plus là. Tout ça, c'est pas très bon. Et d'ailleurs, Witzel, c'est un de ceux
certains joueurs, qui a le plus important.
J'en reviens à Griezmann. C'est un des joueurs qui a le plus insisté sur l'importance du retour de Griezmann pour
Witzel.
Ce match.
Witzel,
oui. Oui, voilà. Donc tout ça, c'est pour moi la chance de l'Atlético, puisqu'on va aller là-dessus, mais je veux pas anticiper sur la suite du conducteur, c'est qu'ils sont pas favoris. Et ça peut très bien leur aller. Ça peut très bien leur aller contre le finaliste sortant de la Ligue des Champions.
Mais alors, sur le plan tactique, c'est vrai que c'est une équipe. Avant, ce qu'on connaissait, c'était le mur des Colchoneros. Alors, il y avait Oblak dans les buts qui était imparable. Il y avait aussi Simeone fondé tout sur l'arrière-banc, sur la défense. On avait cru voir une évolution, après on s'est demandé et tout, mais c'est quand même une philosophie qui a changé, où il fait avec ce qu'il peut, Simeone.
Alors bon, déjà, il faut dire aussi qu'il y a l'absence de Jiménez qui fait très très mal à cette équipe. On se souvient qu'à l'aller, Hermoso avait coulé, vraiment, il avait vécu un match dramatique. Et l'Atlético n'avait fait pas un seul tir cadré à l'aller, donc forcément ils peuvent faire que mieux. Mais oui, il a changé de philosophie. Et quand tu es là dans un club, je crois que ça fait 12 ans qu'il est là, je pense que c'était bien aussi de vouloir évoluer. Alors ça se fait pas comme ça du jour au lendemain, mais c'est vrai qu'aujourd'hui on a une équipe qui est plus dans la possession, avec une touche de balle. Ils prennent plus de risques dans la relance, donc forcément ils s'exposent.
Ils veulent ressembler au FC Barcelone quand même pas.
Ouais, ça je sais pas. Je
pense dans la possession.
C'est encore autre chose, mais disons que ils prennent plus de buts, ils s'ouvrent plus. Et le problème, c'est pas forcément devant, c'est plus derrière, où ils sont très friables. Et ça, c'est le danger face à un duo, que ce soit Thuram, Lautaro Martinez, absolument redoutable. Donc, ça se jouera peut-être dans ce secteur-là. Si l'Atlético, attention, hein, chez eux, ça fait presque un an qu'ils n'ont pas perdu.
On va en parler justement.
Aussi leur terrain.
Oui, parce que leur terrain, c'est cette forteresse qu'on appelle le Stade Metropolitano. Ritana Loca, c'est le dernier refrain hein, dans les travées du stade Metropolitano avec quelques-uns de ses supporters qui s'amusent à le chanter. Alors, ils se surpassent lors des grands rendez-vous, on le sait, et notamment en Ligue des Champions, cette équipe. Une défaite en 30 matchs en plus, c'est-à-dire que cette saison, ils n'ont pas encore plié sur leur pelouse. L'ambiance, ils ont perdu, en fait, c'était en Coupe du Roi, et c'était, si je ne me trompe pas, au tir au but, il me semble, hein, face à l'Athletic Bilbao.
Oui, c'est Bilbao, ouais, absolument.
L'ambiance, en tout cas, de ces supporters, ils sont 70 000. Hein, alors, ils vont pas mal combler les tribunes. C'est toujours redouté par les adversaires, cette ambiance chaude du Metropolitano. Les interistes en ont conscience. Écoutons Simone Inzaghi.
L'Atlético, qui in casa, si trasforma, perché in Liga, primo posto.
C'est un fait, l'Atlético se transforme à domicile. En Liga, ils seraient en tête s'ils ne jouaient que chez eux. Sur 14 matchs, ils ont obtenu 13 victoires et un nul. Je crois que sur les 29 dernières rencontres, ils n'ont perdu que contre l'Atlético Bilbao en Copa del Rey. Nous savons tous ce que représente l'Atlético et quel grand entraîneur est Diego Simeone, qui est aussi un ami après avoir été un grand coéquipier. Nous nous sommes préparés de la meilleure façon possible pour cette rencontre, tout en sachant que le Stade Metropolitano est une référence pour l'Atlético et que nous n'avons qu'un avantage minime après le résultat du match aller.
Simone Inzaghi et Diego Simeone qui ont été, faut pas confondre là, qui ont été partenaires
sous un maillot bleu ciel.
Lazio, voilà. Exactement. Est-ce que l'enceinte change tout dans un match, Patrick? On va tout à l'heure parler de celle de Dortmund, ça a son rôle.
Elle change pas mal de choses. Moi, je me rappelle de la période Covid où le Real Madrid refaisait son stade et jouait sur un terrain bis. Ça a décomplexé énormément les adversaires et c'est comme ça, par exemple, que le Sheriff Tiraspol avait battu le Real, ce qui paraît hautement improbable. Donc oui, ça joue. En tant qu'ancien joueur de club au public très chaud comme la Lazio Rome, Inzaghi en sait quelque chose et Simeone aussi. Mm-hmm. Ils ont toujours cette envie de montrer que c'est le club populaire, le club chaud, au contraire du Real, qui est un club un peu plus consensuel et bourgeois dans cette capitale espagnole. Donc oui, ça joue. Maintenant, l'Inter Milan est habitué. Enfin, je pense qu'ils ne pourront pas invoquer cette excuse si ça se passe mal. L'Inter Milan est habitué à être très mal accueilli sur beaucoup de stades en Serie A. Donc, à mon avis, ce n'est pas le Metropolitano qui va leur faire peur.
Alors, parlons-en de l'Inter, qui arrive sur une dynamique impressionnante. Ce sont 15 matchs sans perdre, dont 13 victoires consécutives. Ils ont en plus en championnat. Alors, on s'est amusé parce que finalement, en championnat, il y a beaucoup de clubs en ce moment en Europe qui ont une dizaine de points d'avance et où ça, tout paraît fait. Je pense à l'Allemagne, évidemment, David, mais il y a même en France.
Les Pays-Bas,
oui. Exactement. On en parlera tout à l'heure. En tout cas, là, 16 points d'avance au Calcio avec une défense de fer emmenée par un certain Benjamin Pavard. C'est vrai que là, du côté de l'Inter, on a un but d'avance et on est capable de le garder.
Oui, je revoyais quelques chiffres avant de vous rejoindre pour l'émission et c'est assez impressionnant. Un Pavard, c'est 31 victoires en 38 matchs de Ligue des Champions. Un Yann Sommer, c'est 90, comme on dirait chez lui, 90% d'arrêt avec cette équipe de l'Inter. Dans cette compétition, personne n'a fait mieux. Il y a pas mal de choses qui vont dans le sens de l'Inter. Et pour poursuivre ce que disait Patrick aussi, il me semble que face à une arène hostile, vous avez deux profils qui serait étanche à cela, ce seraient les joueurs de grande expérience, Là, on a quand même un Pavard qui commence à en avoir, un Sommer qui en a, Çalhanoğlu, Mkhitaryan, même Marcus Thuram commence à avoir fait du chemin, Lautaro Martinez, ou alors des très jeunes qui sont insouciants et qui ne se posent pas de questions. L'Inter est plus peut-être sur l'expérience, même Barella aussi maintenant. Donc, y a peut-être un avantage aussi par rapport à cette arène, à cette enceinte un peu hostile.
Vous pensez
sur le
qu'il
n'y
aura pas de cas comme Timo Werner qui avait eu mal aux oreilles lors d'un de ses premiers gros matchs à l'extérieur en Ligue des Champions?
Faut pas qu'on se moque, parce que c'était une réalité en l'occurrence.
Oui, je sais bien.
Il avait souffert, mais bon. Non, je crois que l'Inter, avec ses chiffres défensifs impressionnants, avec la confiance accumulée sur la saison, avec ses joueurs d'expérience, certains sont, allez, je vais être un peu méchant, un peu âgés maintenant. Çalhanoğlu, Mkhitaryan, ils ont
Sanchez,
peut-être plus les jambes qu'ils avaient lorsqu'ils dans leur club.
Ils ont de l'expérience, comme on dit, avec l'âge.
Et ça, cette stabilité-là, je pense que ça joue quand même pour l'Inter, Annie.
Ludovic, en plus, ils doivent se souvenir de quelque chose, sans doute, ces joueurs de l'Atlético. C'est leur élimination il y a deux saisons, et c'était contre City. City avait gagné 1-0 à l'aller, et au retour, c'était 0-0. Ils n'avaient jamais réussi à franchir leur défense.
L'Atlético.
L'Atlético avait été éliminé par City, qui avait gagné 1-0 et qui restait sur ce but avantageux.
Oui, l'Inter aussi a été battu par City en finale de la Ligue des Champions. Donc, il y a beaucoup d'équipes qui ont perdu contre ces clubs-là. Mais c'est vrai que quand on regarde les statistiques, David en parlait, quand on regarde tout est favorable à l'Inter, j'ai envie de dire quand même attention, parce que cette équipe de l'Atlético, ça reste une équipe qui, chez elle...
En championnat, elle est un peu mal partie. Donc,
elle a qu'un point d'avance.
Oui, elle a du
mal.
Son
cinquième.
La fin de la règle du but à l'extérieur, avantage l'Atlético, qui marque rarement sur terrain adverse, mais maintenant, ça n'est plus un désavantage aussi grand de ne pas marquer sur terrain adverse. Un but, et on va en prolongation, donc ça peut jouer. Il y a autre chose, c'est que l'Inter est clairement le favori de cette double confrontation, encore plus après la victoire de l'aller où, en outre, ils avaient dominé, ils auraient dû s'imposer avec une marge supérieure.
Oui, ils arrivent un peu le mort entre les
dents. Ils sont finalistes sortants, ils doivent assumer ce statut. Est-ce qu'ils vont savoir le faire?
Ils ont le championnat dans la poche, là, ça y est, c'est pratiquement fait.
Alors, là, Inzaghi a pu faire tourner à certains postes à Bologne lors de la dernière journée de Serie A. Donc, on va voir comment s'opèrent les rotations, comment reviennent ceux qui ont été ménagés. Après, sur le plan du jeu et du contenu, l'Inter est très supérieur sur la saison en cours à l'Atlético. Si la logique est respectée, l'Inter passera. Ça va faire au mieux pour l'Atlético un match nul.
Il y a une petite chose en plus qui pourrait...
Ah oui, absolument.
Peut-être que ça sera l'arbitre.
Ça.
Un certain monsieur Marcignac.
Oula.
Peut-être qu'il y aura 18 minutes d'arrêt
de jeu. Mais content, il y aura pas Mbappé sur le terrain.
Oui. Il y aura Griezmann. Griezmann va peut-être s'en souvenir.
La coupe arabe de la FIFA et les 17 minutes d'arrêt de jeu.
Et puis une finale de Coupe du Monde.
Non, je ne sais pas si on va voir Lautaro Martinez sur le banc au début de match, on va voir. Non, c'est une boutade, évidemment. Il sera titulaire. Je pense que quand tu as tes meilleurs joueurs, tu les fais jouer.
Toro argentin.
Et puis surtout, moi, ce que j'adore à l'Inter, c'est le trio du milieu. Mm-hmm. La complémentarité et la qualité technique.
Oui, un des meilleurs milieux, dit-on.
Çalhanoğlu, Mkhitaryan, Barella, c'est un régal.
Alors, il les trouve un peu vieux, David Tortolari.
En qualité de passe et tenue de ballon, c'est un régal, quoi.
Allez, on continue parce qu'il y aura aussi un autre match dans un autre coin d'Europe ce soir.
J'ai été impressionné par le chaudron, la dimension du stade. Mais c'est deux fois Lens, quoi.
Avec la musique allemande, Annie, on ne sait pas si c'est du néo-rétro, si c'est du vieillot retravaillé, si c'est vraiment moderne. C'est toujours très bizarre.
Et quel était ce joueur du Borussia passé par Lens, ancien du Borussia?
Je ne sais pas.
Varmus, non?
Ah oui, il avait... Oui, c'est lui.
C'est Varmus,
Ah oui, oui.
Il avait une référence.
Il a laissé un bon souvenir.
Hein Alors, le Stade Bollard, c'est quand même une référence.
J'ai pas le mérite parce que j'ai commenté avec Guillaume Varmuz à Dortmund, parce qu'à l'époque, et j'avoue que j'avais été pas étonné, mais il avait une popularité. Et voilà, quand on était arrivé, bon, c'était un Dortmund Schalke, hein, c'était un match très attendu évidemment, mais Guillaume était tellement aimé là-bas que c'était génial d'être avec lui.
Alors les jaunes et noirs à égalité au coup d'envoi avec leurs adversaires du soir, car à l'aller aux Pays-Bas, le BVB avait arraché le nul chez les futurs champions des Pays-Bas. Hein, je crois que là, il n'y a pas débat. Le PSV Eindhoven, encore invaincu en Europe durant cette saison, comme le Bayer Leverkusen. Exact. Il va falloir que le mur jaune qu'on entendait chanter là s'époumone et joue son rôle. Dortmund avait pris la première place du groupe, hein, il faut s'en souvenir, devant le PSG, le Milan AC et Newcastle lors de la phase de groupe. En championnat, ils sont un peu décrochés. Hein, 20 points du leader, 10 points du Bayern. C'est compliqué, mais le groupe d'Edin Terzic, dans ce groupe, il y a un homme qui voudrait se faire remarquer parce qu'il en est à sa dernière saison dans son club de toujours, on va dire. Et ce personnage, c'est Marco Reus.
J'essaye toujours d'aider l'équipe, même si je suis moins présent sur le terrain. Jouer tous les deux ou trois matchs, ça n'était pas facile à accepter parce que je n'y étais pas habitué. Mais je me suis dit qu'il fallait profiter du temps de jeu et prendre du plaisir. C'est pour cela que je donne le meilleur de moi-même à l'entraînement. Il y a des hauts et des bas dans le foot, cela fait partie du jeu. J'ai décidé de laisser mon brassard de capitaine. Mon objectif était de profiter de cette dernière saison avec Dortmund. Je suis à un âge où il ne me reste plus beaucoup de temps à jouer. Alors j'essaye de profiter davantage de tout.
Marco Reus, international, qui aurait pu avoir une carrière tellement différente s'il n'avait eu autant de blessures, David Lortolari. Hein, lui, c'est vraiment un homme en cristal. Est-ce qu'il a encore un rôle à jouer pour vous dans cette équipe ?
Oui, il a deux rôles à jouer encore. C'est un joueur qui garde cette agilité, ouais, agilité dans les appuis. Hein. Et donc, même sur un quart d'heure, 20 minutes, quand il entre, c'est un apport. C'est des solutions supplémentaires en attaque. Ce sont des phases de jeu, des réseaux de jeu différents. C'est quelqu'un qui apporte du surnombre, qui est toujours placé au bon endroit.
Et il est l'étincelle aussi, David. Il est capable.
Oui, c'est ça. C'est
d'un coup, d'allumer quelque
encore
chose sur
aujourd'hui.
Le terrain. Et ça, c'est formidable.
Moins sur 90 minutes. Oui. C'est pour ça que je ne l'attends pas, moi, au coup d'envoi d'un match comme ça.
Je ne l'attends pas non plus, lui.
Mais après, il y a un deuxième apport. Un deuxième apport, c'est, et pour le coup, ce n'est pas une formule creuse, il est au service de... Il est au service du club, de l'institution, donc voilà, il va apporter quelque chose, il va se défoncer aussi sur les actions défensives. Avec lui, vous n'avez pas de doute, il sera au service de l'équipe. Si elle est en difficulté parce qu'il y a un but d'avance mais qu'elle souffre, il va faire les efforts dans le bon sens. Avec l'expérience qu'il a, c'est un apport évident. Maintenant, effectivement, c'est réduit à 30 minutes, 15-20 minutes selon les matchs. Mais il ne dépareille pas dans l'effectif quand il est sur le terrain, si c'était la question.
Patrick, il y a un autre personnage qui est revenu dans les rangs, et là avec une autre motivation bien sûr due à son âge, c'est Jordan Sancho qui est allé un peu se perdre dans les brumes du côté de Manchester United. Bon, il est revenu dans les brumes de la Roure, c'est peut-être pas très différent, ça reste industriel. Mais en tout cas, Jordan Sancho, il a même des choses à prouver à nouveau parce qu'il a été repris.
Ah bah, à une époque, il y a 5 ans, on le considérait presque comme l'égal de Kylian Mbappé en termes de promesses footballistiques, et il a perdu beaucoup de temps en route, effectivement. Et encore cette saison, je trouve que Malen, sur l'autre aile, se distingue plus et fait plus de différence que Sancho. En tout cas, c'était le cas en Ligue des Champions sur le précédent match. Donc Sancho, oui, c'est un joueur... Il y a beaucoup de joueurs comme ça dans cette équipe. Avant, le Borussia Dortmund, c'était un peu l'antichambre du Bayern Munich. Et ces dernières saisons, ils ont aussi récupéré des joueurs qui avaient plus ou moins échoué au Bayern et qu'ils relancent un peu, comme cette saison, Sabitzer, par exemple. Hummels, qui finit sa carrière, mais qui a été aussi un...
Süle, on peut ajouter à la
Niklas
liste.
Süle, qui est...
Devrait jouer, d'ailleurs, les deux.
Ouais.
On a les retours.
Ce sont des joueurs, quand même, là aussi, on parlait de l'Inter, des joueurs vieillissants, là, c'est plus du tout jeune. Hein, donc, est-ce que ça va suffire ? Je pense qu'ils peuvent passer, grâce au fait qu'ils ont... Ils ont quand même été plutôt les meilleurs au match aller. Ils auraient pu déjà avoir un avantage. Donc, je pense qu'ils vont passer. Mais ça pourrait être serré. Ça pourrait être serré parce que le PSV, attention.
Alors ça pourrait être serré. C'est vrai que le PSV, là, c'est une équipe qui est un peu en orbite en Europe, dans son championnat, hein, invaincu. Et puis qui est avec Peter Bosz, qu'on a connu sous les couleurs lyonnaises. Son 25 matchs, 22 victoires, 3 nuls. Ils sont arrivés deuxième de leur groupe. C'était juste derrière Arsenal pendant la phase
devant
de groupe.
Lens, hein, ouais.
Devant Lens, malheureusement, parce que Lens avait raté ses matchs. Justement, face à ce PSV, on a vu leur valeur. Mais est-ce que aller jouer, ne pas avoir gagné sur leur terrain, c'est pas un problème, Ludovic ?
Mais moins avec les buts qui comptent double à l'extérieur. Mais c'est une équipe.
Ça compte plus, justement.
Non, ça compte plus, mais c'est une équipe qui a vraiment énormément de qualité
ouais.
qui a marqué 93 buts, qui joue un football. Moi, j'avais été assez impressionné dans leur double confrontation avec Lens. Mm-hmm. J'avais trouvé que collectivement, au niveau de la fameuse possession,
c'était champagne.
Il n'y a pas de joueur que je ressortirais. On a De Jong devant, évidemment, qui marque but sur but. Benitez que moi, j'avais déjà beaucoup apprécié quand il était en Ligue 1, que je trouvais faire partie des 2-3 meilleurs gardiens, qui est maintenant international régulièrement. Voilà, c'est une équipe qui n'a pas de points faibles, qui joue un football total. Et je conseillerais quand même aux amis de David de faire très attention, parce que je trouve que cette équipe du PSV ne doit surtout pas être prise à la légère. Je trouve que c'est un match qui est vraiment très équilibré. Je sais pas ce qu'en pense David, mais je dirais que c'est du 50-50. Et je pense qu'ils sont capables, le PSV, d'aller se qualifier là-bas.
50-50, David ?
Non, j'irai pas jusque-là, mais il y a quand même quelques éléments perturbateurs qui vont aussi dans le sens de Ludovic. C'est cet entraîneur Peter Bosz qui veut aussi montrer aux Allemands qu'avec un championnat soi-disant petit frère, on peut réussir des éclats contre des équipes de pointe.
Lui qui a été sur le banc de Dortmund fut un temps.
Il y a aussi en face Daniel Malen qui s'est révélé au PSV Eindhoven pour aller ensuite en Bundesliga. Il y a forcément aussi de l'électricité entre les deux camps vis-à-vis de ça. Madsen, le latéral gauche de Dortmund, qui est la réussite dans les recrues.
Qui a piqué la place à Ben Sebaini.
Oui, qui est devenu remplaçant. Exact, l'Algérien.
Au grand dame de Nabil que je salue.
Le jeune Madsen aussi va vouloir briller, mais il est très jeune, manque d'expérience, donc on peut imaginer aussi qu'il puisse y avoir des imperfections. Moi, j'ai un baromètre, pour en revenir à ce que vous disiez, Annie, il y a 3 minutes, j'ai un baromètre, c'est Jadon Sancho. Il est revenu cet hiver. On a vu qu'il n'était pas dans le coup. Et là, il vient de marquer un formidable but le week-end dernier en effaçant, tel à ses meilleures années. Il n'est pas vieux, mais à ses meilleures années, deux adversaires. Et il vient marquer un but de chirurgien. Jadon Sancho qui revient en forme, ça peut quand même être le genre
de
facteur.
Qui manquait.
Exactement.
Eh bien, on verra ça ce soir. Y aura-t-il des surprises ? Hier soir, ce sont plutôt ceux qui se sont qualifiés. C'était plutôt la logique qui s'est imposée.
Left four from four. Odegaard, yes. Havertz, yes. Saka, yes. Rice, yes. 4-2. Galeno.
De ce côté-là, il n'est pas prenable, Raya. Arsenal propulsé en quart de finale par l'inspiration de son gardien espagnol.
Au forceps, mais Arsenal est de retour après 14 années d'absence. Les Gunners retrouvent le groupe des 8 meilleures équipes européennes. Ils ont arraché leur place grâce à la séance de tir au but, vous l'avez entendu, mais avant aussi grâce à un magnifique but où Odegaard a joué un grand rôle. Mikel Arteta avait de quoi être satisfait.
A magic night, what we expected. A really tough opponent, really well organized.
Ça a été une soirée magique pour nous. C'est ce à quoi nous nous attendions. Un adversaire très coriace, très bien organisé, très difficile de générer un rythme constant dans le jeu face à eux, et c'est tout à leur honneur. Nous l'avons fait, nous avons marqué un but magnifique. C'est une grande expérience pour nous. Nous avons été obligés de passer par les tirs au but. Nous nous sommes préparés à cette éventualité. Bravo à nos entraîneurs de gardiens et évidemment à David Raya, qui a connu des moments difficiles au début, mais qui est resté debout grâce à une incroyable personnalité et de l'ambition. Il a été récompensé aujourd'hui.
Patrick Juillard s'est allé jusqu'au tir au but, mais est-ce que vous diriez qu'ils se sont qualifiés difficilement, ces Gunners ?
Oui, je le dirais. Je trouve qu'ils sont qualifiés.
Match aller, ça avait été très compliqué.
Ouais, c'est-à-dire que, en fait,
zéro tir cadré, je crois.
C'est une équipe qui est pour sa grande chance, obligé de jouer sur plusieurs tableaux, qui est encore engagé en course pour plusieurs compétitions, la Première Ligue et la Ligue des Champions, c'est pas rien. Et ils n'ont pas forcément l'effectif qui est pensé pour être sur autant de tableaux et de matchs importants en même temps. Et donc, ça renaque parfois un petit peu, ça grince un peu. Et hier, on a vu que c'était, une inspiration géniale de Odegaard qui fait cette passe claquée là où on ne s'y attend pas et qui met sur orbite Trossard.
Ouais.
Ça, c'est magnifique. C'est l'inspiration du numéro 10 à l'ancienne qu'on ne voit plus beaucoup dans le foot d'aujourd'hui. Donc ça, c'est vrai qu'il y a de quoi être fier si on est le coach de l'équipe. Mais il y a eu aussi pas mal de flottements, il y a eu des situations mal négociées, il y a eu des joueurs qui n'étaient pas au niveau requis, dont Bukayo Saka, qui est autant qui peut être peut-être l'un des meilleurs joueurs offensifs de Première Ligue sur la saison,
régulier.
Autant en Ligue des Champions, c'est moyen.
Ouais.
Donc, Arsenal n'a pas levé tous les doutes, mais on ne peut que constater et se féliciter qu'il soit de retour en quart de finale, ce qui n'était plus arrivé depuis une douzaine d'années.
14 ans.
À 14
même. C'est-à-dire encore une époque ancienne qui a été celle de...
Une époque révolue.
Arsène Wenger. Ludovic, vous avez été impressionné par le FC Porto, par la résistance finalement qu'ils ont opposée. Ils avaient gagné 1-0 au match aller et là, ils auraient pu l'emporter et se qualifier.
J'ai adoré ce qu'ils ont proposé. Je pense qu'alors, contrairement à Arsenal, je pense que Porto a surperformé. Mais moi qui aime... Alors en France, qui est un club préféré, qui est Nantes, j'ai suivi de près Sergio Conceição quand il était entraîneur de Nantes. Il avait amené ce club à la 7e place de la Ligue 1. C'est pour moi un super entraîneur, un super meneur d'hommes. Et ce qu'il fait avec cette équipe, ils ont battu Benfica 5-0 il y a quelques jours. Je trouve qu'hier, c'était... Voilà, il leur a manqué que quelques tirs au but. Ils ont été plutôt dominés dans le jeu, mais ils ont été dangereux en contre-attaque. Et le fiston contre Cessao sur le terrain a été très bon. Et voilà, il y a des joueurs comme ça qui Evanildo qui a été aussi très bon devant, Pepe qui a 140 ans mais qui tient toujours derrière, qui est
41, t'avais les chiffres dans le désordre.
Voilà, mais qui est toujours impressionnant. Il y avait des joueurs comme ça qui, on a l'impression qu'ils peuvent jouer jusqu'à 50 ans. Donc ils ont été jusqu'au bout de leurs idées et je me dis quand même que s'il n'y avait pas eu cet éclair d'Odegaard, ce moment de ce coup de génie à un moment donné, eh ben je pense qu'ils se seraient qualifiés. Ils étaient exactement dans ce que le coach leur a demandé. Et oui, j'ai beaucoup aimé cette équipe de Porto.
C'est finalement Arsenal qui réussit à se qualifier au tir au but, on l'a dit, et grâce à ce très beau but. Ils sont actuellement premiers de Première Ligue, mais alors on sait comment, c'est-à-dire les suivants se sont affrontés au cours du week-end et n'ont fait que match nul, donc ils ont profité de ça, ils ont 2 points devant, ou un point même,
un point
seulement derrière Liverpool et City. Ouais. Est-ce que vous les avez trouvés quand même au niveau justement du rang qu'ils occupent actuellement, David, ou est-ce que vous êtes un peu comme Patrick Juillard, c'est-à-dire peu dans le doute?
En fait, les éléments, on les a déjà, c'est-à-dire il y a un gouffre en Ligue des Champions entre accéder à un huitième de finale et accéder à un quart. On fera le bilan, vous ferez peut-être le bilan vous dans la suite
demain,
de la semaine.
Vous pourrez nous écouter.
On va s'apercevoir, si on est contredit, tant mieux, ça veut dire qu'il y a des surprises, on va s'apercevoir qu'il y a quand même une hiérarchie assez implacable. Vous parliez de 14 ans d'attente pour Arsenal, et dans les propos de l'entraîneur après le match, qu'on a entendu il y a un instant, on sent qu'il parle de miracle, il parle d'une nuit géniale,
magique,
et que c'est quand même une grosse marche. Et le FC Porto est en plein à ce niveau-là. C'est-à-dire que le FC Porto, que je trouve comme Ludovic magnifique, surtout avec cet entraîneur, c'est un peu à cheval entre des huitièmes de finale, des quarts de finale. Porto pourrait même, sur certains parcours, prétendre à faire un peu mieux. Et donc pour Arsenal, c'était quand même une marche importante. Est-ce que ça veut dire qu'il y a une dimension psychologique aussi pour certains joueurs de cette équipe qui découvrent ce niveau-là? On en parle souvent, on parle de l'oxygène qui se raréfie quand ça monte, quand ça devient compliqué, quand c'est un peu du 50-50. C'est peut-être une forme de libération d'arriver dans la douleur à se qualifier pour un match comme ça. Je me méfierais d'Arsenal jusqu'au bout.
Oui, il a raison. Je suis d'accord. Juste ajouter que quand tu es capable de battre Liverpool en Première Ligue, quand tu bats des grandes équipes déjà, il n'y a pas de raison. Voilà, il n'y a pas de raison qu'en Ligue des Champions, ils ne soient pas capables d'aller plus loin. Hier, ils sont tombés sur une équipe qui aurait très bien pu les faire tomber, mais ils sont passés. Et moi, je suis d'accord, ils sont redoutables maintenant. Et ils peuvent aller très, très loin dans cette compétition.
C'est un cap psychologique, mais peut-être que cette aventures européennes, alors que l'année dernière, on se souvient des dernières journées de championnat où ils avaient perdu face à Manchester City. Finalement, ils ont calé au moment où les autres, par contre, redevenaient excellents. Cette année, et peut-être qu'ils veulent profiter de l'avance qu'ils ont prise au championnat, est-ce qu'ils vont pouvoir mener deux chevaux en même temps à l'écurie, Patrick ?
L'avance qu'ils ont prise, elle est relative, puisqu'ils vont jouer prochaine semaine Chelsea. Bon, ça n'a pas l'air si terrible vu la situation actuelle de Chelsea, mais ça reste un derby londonien qui motive beaucoup les adversaires. Et puis surtout le 31 mars, City. Donc la saison, elle pourrait se jouer dans cette deuxième quinzaine du mois.
On a cru qu'elle se jouerait le week-end dernier, elle ne s'est pas jouée. Ouais, donc finalement, il y a toujours des caps.
Ils sont dans ce que veut leur entraîneur. Ils sont
dans la
course.
Progression chaque année,
c'est ça ? Je pense quand même que Manchester City a un petit peu plus de marge, notamment parce que, à mon avis, leur effectif est le banc est un peu plus consistant.
Mais ça veut dire que l'Europe arrive un peu trop tôt, pratiquement, pour ces Gunners ?
C'est pas trop qu'elle arrive trop tôt, c'est que comme l'effectif, à mon sens, est plus restreint, ça risque davantage d'entamer leur force que ce sera le cas pour Manchester City, qui est habitué à avoir un double calendrier et pour qui c'est pas du tout une nouveauté.
On a loué le travail de Sergio Conceição, on le dit partant, ça fait 7 ans, si je ne me trompe pas, 7 saisons qu'il est là-bas. Ça serait peut-être, non pas parce que les résultats ne conviennent pas, mais parce qu'il y aurait un changement de président du club, c'est ça.
Oui, il est très impliqué. C'est compliqué aujourd'hui dans les clubs portugais, dans beaucoup de clubs. On a vu le Sporting il y a 2 ans, je crois, qui était en grand danger de liquidation carrément. Benfica, c'est pas mieux. Oui, c'est Quand vous êtes impliqué comme ça, c'est l'ancien...
Avec la direction,
c'est
avec Lopinto.
C'est Villas-Boas, qui...
Alors, Lopinto, qui a 82 ans, qui est toujours président du club, mais qui pourrait se faire battre par, effectivement, André Villas-Boas, ancien entraîneur en France de l'OM, mais qui est un personnage très connu et qui a fait gagner un titre important au FC Porto.
Après, Annie, peut-être qu'il ressent aussi un besoin d'aller voir ailleurs et de prendre...
De retourner à Nantes.
Alors, franchement, je crois que tout le monde aimerait bien du côté de
Nantes. C'est le même océan.
Là, on l'attend, mais avec ça serait avec l'accueil gigantesque dans toute la ville, défilé, etc., sur le char.
Non, je crois qu'il ne faut pas rêver.
Non, je pense qu'il attend peut-être un plus grand club que Porto. Voilà.
Je pense que d'autres clubs aimeraient le rêve de Sergio Conceição.
C'est sûr.
Conceição, comme vous dites. On continue parce que là, on va pas sur les mêmes rivages, mais du côté de la mer Méditerranée.
Dans la surface de réparation, en retrait, voilà le but du Napoli, remarquablement construit. C'est Ramani qui est à la conclusion de ce joli mouvement au service magique pour Sergio Roberto.
Magnifique.
Et la conclusion remarquable, ça c'est le Barça.
Il Barça 3, Nápoles 1.
Le Barça est de retour en quart de finale de la Ligue des Champions.
Et revoilà les Blaugrana eux aussi. Alors, seulement 4 années d'absence, un temps où, alors là, c'était Lionel Messi, c'était Arsène Wenger, c'était Lionel Messi qui était encore barcelonais. Les Catalans renouent donc avec les quarts de finale. Ils sont venus à bout de Naples, ce qui n'a pas été simple, mais les Napolitains ont, eux, multiplié les maladresses, alors que les jeunes alignés par Xavi ont impressionné tout le monde, jusque dans les rangs adverses. Écoutez, Franck Zambo Anguissa, l'international camerounais, au micro de nos confrères de Canal+, en sortie de match.
C'est beau de voir ça, parce que ça prouve que dans le football, il n'y a pas d'âge. C'est juste impressionnant de les voir à cet âge-là faire ce genre de match à ce niveau-là, dans une compétition comme la Champions League. Et c'est un Barça qui a beaucoup de qualité. Les gens, ils peuvent parler, mais jouer contre eux, c'est très difficile. C'est très difficile parce que c'est une équipe qui sait ce qu'elle fait. C'est une équipe avec de jeunes joueurs de qualité, qui ont un bon coach, qui tactiquement sont super, on va dire, en place. Ils ont causé beaucoup de problèmes et je peux vous dire que ce Barça-là, il va surprendre beaucoup de monde.
Alors, prédiction en plus
il,
de François.
Il a envie de venir, j'ai l'impression.
Ou alors, il était spectateur du match.
Oui, mais il a pas l'âge d'être jeune parmi les jeunes de la Masia. Ils ont brillé,
au
notamment...
Au Cameroun, l'âge est parfois relatif.
Oui, je crois. Ils ont brillé. Alors, c'était par exemple ce défenseur, Pao Kubarsi, qui a 17 ans.
Homme du match.
Homme du match, exactement. Mais il y a aussi Lamine Yamal. Lui, n'a que 16 ans. Fermín López, 20 ans. La relève de la Masia est assurée comme à la belle époque, Patrick Juillard ?
Il faut rester quand même un peu mesuré, parce qu'on a déjà vu dans les années récentes des joueurs réaliser des débuts extrêmement prometteurs et ne pas donner vraiment
suite. Pensez à Ansu Fati.
Ansu Fati, Akhomach aussi qui a été prêté cette saison. Il y a eu Mounir Al-Adadir. Enfin, il y en a eu plusieurs qui n'ont pas fait les carrières qu'on espérait au départ. Mais évidemment, sur le moment présent, ces joueurs-là ont répondu présent, c'est le cas de le dire. Et ont brillé, ont été décisifs, hein, chacun à sa manière. Donc oui, c'est un succès. Le Barça revient, aidé aussi quand même par un Naples assez faible.
Mm-hmm. Ouais. David Lortolari, vous ont plu aussi ces jeunes. Alors, Pao Cubarsí, on s'est demandé s'il n'aurait pas mérité d'être expulsé justement, ou en tout cas d'avoir un carton, qu'il y ait un pénalty, exactement.
Un pénalty, sur Osimhen.
Sur sa faute, sur Osimhen, exactement.
C'est la frontière ténue entre ce qu'on disait au début de l'émission, c'est-à-dire des jeunes joueurs qui peuvent avoir une insouciance qui va bien jusqu'au moment où ça bascule dans le n'importe quoi. Donc on n'y était pas.
On y était presque.
Je pense que le Barça, il y a ce savoir-faire séculaire et aujourd'hui, il n'y a pas tellement d'autres solutions. Le Barça ne va pas faire venir Messi.
Parce que ça fait du bien aux finances de faire ce choix-là parmi ces jeunes. Mais Xavi, il les a bien ciblés quand même.
Ah bah oui.
Oui, et puis on entendait Zambo Anguissa parler d'un bon entraîneur, d'un super entraîneur. Je pense qu'il y a effectivement un savoir-faire qu'il a extrait de son vécu sur le terrain. Voilà.
Non, mais
c'est vrai.
Je crois qu'il n'y a pas de hasard, Annie. Je pense que... Moi, j'ai l'impression que j'appellerais ça la génération Camavinga. C'est-à-dire que c'est vraiment des gamins. Moi, je suis époustouflé par...
Peut-être la génération Xavi aussi, hein.
Peut-être.
Xavi, Iniesta, c'était l'époque. Mais
je parle de Camavinga
parce
que je trouve qu'il a cassé des lignes, et notamment en arrivant en équipe de France aussi jeune. Il y a eu Zaïre Emery également. Là, on voit Cubarsí, Yamal qui a 16 ans.
Quand
on, ouais, il est un peu plus vieux maintenant.
Non, mais à l'époque.
Non, c'est peut-être lui qui a lancé cette mode, mais je trouve que ça peut pas être un hasard de voir Yamal, il a 16 ans. Quand on voit le match qu'il fait encore hier, il est devant avec Lewandowski et Rafinha, c'est exceptionnel ce qu'il est capable de faire. Petit aparté aussi pour dire quand même que Naples a vraiment eu des occasions hier, hein, de faire très très mal à ce Barça.
Là, contre,
moi je trouve que
ils sont faibles, c'est-à-dire qu'ils les ont pas concrétisés.
Oui, ils sont en quart de finale le Barça, mais moi ils ne m'ont pas convaincu et je trouve que ça serait un bon tirage par exemple pour le Paris Saint-Germain.
Ah, oui, c'est vrai.
Mais on aura le temps d'en reparler.
Moi en fait, si pour élargir un peu, les qualifications d'Arsenal et du Barça sont méritées sur les matchs qu'on a vus. Mais aucune des deux équipes ne m'a convaincu. Aucune des deux équipes n'a fait preuve de maîtrise, vraiment. C'était plus des coups de génie sporadiques.
Mais d'ailleurs, tous les qualifiés de ces 16e, peut-être en dehors de City.
Peut-être l'Inter. Je pense que les premières forces, c'est City, l'Inter. Il y a l'Inter et le Real derrière.
Ils n'y sont pas encore, l'Inter.
Éventuellement,
ouais,
et le PSG.
Ils ont souffert, le Real Madrid.
Mais il n'y a pas vraiment de maîtrise. Et le Napoli, quand même, par rapport à l'équipe de la saison dernière, alors que l'effectif est relativement le même.
Je crois qu'ils sont victimes de tout ce qui s'est passé
compliqué.
Au sein du club.
Et puis, il y a des fins de cycle. Osimhen, on sent bien qu'il est là sans plus tout à fait être là. Que l'objectif de sa saison, c'était la CAN. Il l'a malheureusement pour lui raté de fort peu. Et là, on sent qu'il en fait un peu trop, qu'il n'est pas dedans et que même son attitude, elle est un peu... Il est plus facilement irritable.
Alors,
c'est compliqué.
Que change ce résultat pour le club des Blaugrana? L'entraîneur, lui aussi enfant de la Masia et qui a annoncé son départ en fin de semaine, c'était il y a à peu près une semaine. Xavi, qu'on avait appelé à la rescousse, qui avait apparemment sauvé ce club, il leur a même offert un titre de champion d'Espagne. Eh bien, écoutons la réponse de Xavi, à savoir, est-ce que ce résultat a changé quelque chose?
Ça ne change rien à mon départ. Nous sommes maintenant en quart de finale, mais si nous avions perdu aujourd'hui, vous m'auriez mis à la rue. Vous l'auriez d'ailleurs déjà écrit. Alors restons calmes. C'est beaucoup trop émotionnel. Calmez-vous. Il est temps d'apprécier cette victoire, rien de plus. Maintenant, préparons-nous pour l'Atlético de Madrid samedi en Liga, ainsi que pour le tirage au sort de la Ligue des Champions ce vendredi. Procédons étape par étape, si vous le voulez bien.
Xavi tellement admiré, tellement attendu aussi du côté du banc du Barcelone et finalement qui va s'en aller de cette manière. Est-ce que pour vous, il est là ou est-ce que ça peut aussi changer d'ici, j'en sais rien, s'il gagne la Ligue des Champions, est-ce que tout d'un coup, son président Laporta va se dire il faut quand même le garder et les supporters?
J'ai trouvé très irrité là dans sa réponse.
Il s'irritait aussi par rapport aux attaques de la presse.
Vous nous aviez traité de guignol, voilà, et maintenant vous dites quoi,
il a dit. De peau. Maintenant, le concernant, oui, c'est quand même un enfant de Barcelone. Il a redonné un titre à cette équipe. Ils sont en quart de finale, même si on dit qu'on n'est pas convaincu, ils sont là. Mm-hmm. Il sort des jeunes. Il est en train de faire, il fait le boulot. Donc, c'est vrai, moi, ça, j'étais très étonné de l'entendre dire qu'il s'en allait, en fait.
Est-ce qu'il peut être... depuis, d'ailleurs, il gagne. C'est pour
est-ce
ça que...
Est-ce qu'il peut être rattrapé?
C'est la jurisprudence Tourelle.
En fait, on lui reprochait, dans les critiques qui étaient émises par les observateurs et la presse espagnole, on lui reprochait plus la manière que les résultats, en réalité. Mm-hmm. C'est-à-dire qu'il est arrivé avec la promesse un peu d'une, entre guillemets, restauration du style, Guardiola.
Sauf qu'il n'a pas les hommes.
Et puis, il s'est... On lui reproche, alors à ton tort, à ton raison, ça j'en sais rien, mais on lui reproche d'être un peu dans le pragmatisme froid, de se contenter de petites victoires. Je trouve que le match d'hier, à ce niveau-là, donne un autre signal, c'est-à-dire il montre que ces joueurs ont la capacité à au moins répondre présent dans les matchs importants, dans les matchs qui comptent, sachant qu'ils ne jouent pas sur leur pelouse. Ils sont exilés à Montjuïc, qui est le stade olympique, qui n'est pas le stade du le Camp Nou, c'est
exilé,
important.
Mais là, le stade était plein, en tout cas.
Voilà. Donc, y a une certaine revanche. Et moi, je ne serais pas tout à fait étonné si le Barça va loin, c'est-à-dire dernier carré, voire mieux.
Qu'on le fasse changer
que
d'avis.
Peut-être on change d'avis et qu'on se dise que ce serait idiot d'aller chercher ce qu'on a déjà sous la main.
Surtout que David, hier, on a bien vu qu'il avait fait les bons choix dans cette Masia. Je sais pas combien il y a de joueurs à sa main. Et il a quand même choisi des joueurs, l'homme du match, enfin les trois au moins qui étaient dans cette équipe, censés redonner du souffle. C'est lui qui les a choisis et qui leur a fait confiance.
Et ça n'est pas un choix jusqu'au boutiste, puisque évidemment, alors ils sont titulaires, c'est normal, mais vous avez un Gundogan, je ne sais pas s'il encadre en dehors du terrain, mais sur le terrain, c'est quand même ça passe par lui. Lewandowski qui peut encore marquer quelques buts, n'est-ce pas?
Qui a marqué le deuxième.
Et qui peuvent ces deux-là quand même, parce qu'ils ont un comportement, une image, une carrière assez exemplaire, qui peuvent peut-être aussi, pour les jeunes...
Joueurs, hein.
Voilà.
Et le meilleur de tous n'est peut-être pas là, c'est Alex Baldé, le latéral gauche, qui est blessé et qui va sûrement même rater l'Euro. Donc Cancelo a très bien fait le boulot hier à sa place, mais il a du matos à la Masia.
Il y a tout avec un bon gardien,
Pedri et tout ça aussi. La
difficulté, c'est pour ces joueurs-là, c'est de durer et de confirmer. On voit
et de ne pas trop se blesser.
Après, rien n'est définitif en football. On voit que Odegaard, qui avait été présenté il y a... quand il avait 16 ans, comme le futur Modric.
Ils n'ont pas été patients.
Ça n'a pas fonctionné. Et maintenant, à la maturité, à 25 ans, il retrouve des ailes. Quoi, avec
un
coach
qui
valorise ses qualités.
Je me faisais la réflexion hier en voyant Odegaard, qui est vraiment un joueur. Pour moi, c'est le De Bruyne d'Arsenal.
Il y a de ça.
Je me dis, il y a Odegaard, il y a Haaland. Ce n'est pas possible. La Norvège, ils ne peuvent pas trouver des joueurs pour mettre autour et pour aller gagner des matchs.
Surtout dans un Euro à 24 équipes, quand même.
Mais oui, c'est fou. Ils doivent pouvoir avoir une équipe.
Quand on voit que l'Islande s'est qualifiée, la Norvège devrait pouvoir y arriver, effectivement.
C'est un autre débat, mais je me dis quand même, quel joueur de garde, quel bonheur de voir ce genre de garçon sur un terrain. Ce qu'il fait hier, le but qu'il donne, franchement, c'est magnifique. Et puis en plus, lui, tu le compares à Modric, je pense que c'est peut-être une bonne comparaison. Parce que qu'est-ce qu'il court ?
Dans l'esprit,
combien de kilomètres il a fait hier ? Il n'a pas arrêté.
Il a à la fois le talent, mais aussi le sens du collectif et du sacrifice, un peu comme Pirlo aussi à l'époque. Mais c'est un joueur qui va plus vite, qui est plus... Pirlo, c'était un peu un joueur qui jouait
en seconde, pas plus.
Ouais, voilà.
et David, finalement, cette équipe, est-ce qu'elle peut se révéler, on va dire, au révélateur, comme vous le disiez, des quarts de finale? Parce que là, ils ont passé un cap psychologique.
Oui, alors de très belles choses, montrer de très belles choses, marquer des buts, tout ça c'est oui. Réussir des coups, des actions, tout ça c'est oui. Après, contre les grosses machines...
Xavi, il a quand même un sens tactique.
Oui, mais enfin, si on a un Manchester City FC Barcelone, si on a un Real Madrid FC Barcelone, si on a même un Bayern Barcelone, sur le pourcentage de données de chance au Barça, ça reste encore assez tendre, me semble-t-il, par rapport à ces équipes-là, j'entends.
C'est-à-dire, moi, je trouve que Xavi a fait du bon boulot et que les jeunes, hier, ont répondu présent. Donc ça, c'est toujours positif, ça va leur donner beaucoup de confiance et ça va mettre de la concurrence aussi dans le groupe. Mais effectivement, c'était contre un Naples, insistons bien là-dessus, très faible par rapport à ce qu'on pouvait attendre de cette équipe. Donc il faut un peu relativiser tout de même l'enthousiasme, à mon avis, sur le Barça. Attends, le vrai test, c'est peut-être pour plus tard.
Eh bien, on en parlera demain dans Radio Foot International.
On vous écoutera.
David,
on
nous fera le bilan justement de ces huitièmes de finale et des qualifiés qui disputeront donc la phase prochaine de Ligue des Champions. Et ça sera au début du mois d'avril. C'est la fin de ce Radio Foot International. Merci beaucoup,
messieurs,
d'y avoir participé et de l'avoir animé. Nous, on se retrouve demain pour donc faire les bilans. Merci à tous.